Bon, il paraît que là, mon portugais, là, il faut que je travaille là-dessus, c'est Saint-Joy. Saint-Joy, c'est comme ça qu'il faut prononcer ça en portugais. J'espère que je le prononce correctement. Voilà. Évelyne Audet.
Bonjour.
Bonjour. Comment ça va?
Ça va très bien. Bonne Saint-Jean un petit peu à l'avance.
Ben oui, c'est gentil, c'est gentil. Alors là, tu vas nous parler des tricheurs et tricheuses de l'histoire. En fait, certains cas connus, d'autres moins connus. C'est ça que j'ai trouvé intéressant dans ta proposition. Alors, je t'écoute.
On commence avec Carlos. Carlos, des histoires invraisemblables, mais qui sont bel et bien arrivées. Carlos Enrique Raposo, connu sous le nom de Carlos Kaiser, lui, il est considéré comme la plus grosse arnaque de l'histoire du soccer, OK? C'est un joueur de soccer brésilien, mais qui avait pas le calibre professionnel, il le savait très bien, mais lui, il a toujours rêvé du mode de vie, du style de vie glamour des joueurs professionnels. Il a passé sa carrière à mentir et à signer des contrats professionnels d'équipe en équipe sans jamais jouer un seul match. Là, je te ramène au début des années 80. Sa façon de s'y prendre, en fait, à la base, le gars est super sympathique. Tout le monde l'aime, il a de l'entre-gens, il est fin avec tout le monde. Et c'est quand même un joueur de soccer, alors physiquement, tu y crois quand tu le vois, il est athlétique et il a l'air d'un joueur de soccer. Il sort dans les bars, il emprunte des habits chics prêtés là par des amis et il se met ami avec plusieurs joueurs professionnels. Il se crée un réseau de contacts de sorte qu'il a toujours une bonne référence quand c'est le temps d'appliquer pour un club. Et il se mettait aussi ami avec des journalistes, évidemment, et il réussissait à leur faire écrire des articles remplis de menteries, dont un, notamment, qui a déjà dit qu'il avait reçu une invitation pour l'équipe nationale mexicaine et il n'y avait rien de plus faux. Alors, son stratagème, là, c'était de signer un contrat court terme avec une équipe et de dire d'entrée de jeu qui voulait prendre un entraîneur privé pour se mettre au sommet de sa forme avant de commencer officiellement avec l'équipe. Donc, l'entraîneur disait « Ah ben oui, c'est bien beau ». Alors, il brûlait les premières semaines comme ça. Éventuellement, il joignait l'équipe à l'entraînement. Et là, quand les entraîneurs se tannaient, voulaient voir des résultats, puis le faire jouer, ben, il demandait à certains de ses coéquipiers de le brasser un petit peu à l'entraînement pour qu'il puisse feindre une blessure. Là, il passait 20-30 jours à l'infirmerie. Et il étirait le temps, et il étirait le temps comme ça. Les équipes embarquaient parce qu'ils signaient à court terme, puis ils ne demandaient pas très cher. Lui, je te rappelle, son but, c'était juste de vivre cette vie-là. Donc, ça représentait pas un grand risque pour les équipes de toute façon. Et à l'époque, il n'y avait pas Internet, alors ça devenait difficile là, de garder la trace de tout ça. Donc, il n'y avait pas non plus de médias de télé hein, qui couvraient les matchs. C'était la radio et la presse, et c'était beaucoup le bouche-à-oreille. Puis, comme je te disais, lui, le bouche-à-oreille, ben, ça lui était favorable parce qu'il se mettait de chum avec tout le monde. Autrement dit, il a tenu une carrière de 10 ans sous le maillot de certains des clubs les plus prestigieux du Brésil,
ben
Botafogo, Flamengo, je te jure Bernard, et ses stats n'ont jamais changé, pas une minute de jeu, évidemment pas un seul but marqué. C'est bon. Juste un mythomane. Et ce qui est drôle, c'est qu'il vit encore, ce gars-là. Aujourd'hui, il a 57 ans. Il a raconté son histoire dans les médias en 2011, mais il s'excuse de rien, là. Lui, il se voit comme un justicier. Il a toujours dit, les clubs de foot, ça entube les joueurs, fait que ça prenait quelqu'un pour les venger.
C'est excellent. Ah, oh, c'est très bon. Alors, comment il a été démasqué? On le sait-tu?
Je pense que c'est juste avec le temps. À un moment donné, il y en a un qui a fait là ton CV. Que tu, honnêtement, je pourrais pas dire comment ça s'est passé.
Mais ce que tu peux dire, c'est qu'il a duré 10 ans quand même.
Il a
comme
duré
ça,
10 ans. C'est quand même incroyable.
Faut être fort. Bon, Rosie.
Ouais, Rosie Ruiz est une tricheuse de marathon. Elle, là, c'est une Cubaine qui est décédée en 2019. Elle avait 66 ans et elle arrêtait pas de tricher dans les marathons. C'était même pas une grande sportive. Elle était capable de courir un peu, mais pas de finir un marathon. En 79 au marathon de New York, pendant la course, elle était au bout de ses forces après environ 30 minutes. Alors, au lieu d'abandonner, elle a décidé de prendre le métro puis elle s'est avancée dans le trajet. Elle est sortie du métro, elle s'est glissée à travers la foule et est retournée en douce dans le trajet, tout près de la ligne d'arrivée. Puis finalement, elle a fini la course en 11e position. Mais là, c'est pas pire, ce 11e, parce que elle est pas montée sur le podium, donc ça, y a personne qui l'a soupçonné de quoi que ce soit, tu sais. Et par contre, une 11e place, c'est un assez bon temps de qualification pour d'autres courses.
Ben oui.
Alors, elle a été invitée au marathon de Boston l'année suivante. Là, elle s'est trouvée un nouveau stratagème. Elle a loué une chambre d'hôtel tout près de la ligne d'arrivée. Juste au bon moment, elle s'est glissée à travers la foule. Elle avait pris soin de se verser de l'eau sur la tête pour faire semblant qu'elle avait transpiré. Mais là, elle s'est gourée parce qu'elle est rentrée un petit peu trop tôt dans le trajet. Donc, tout le peloton de course était encore derrière elle, contrairement à ce qu'elle pensait. Alors, elle a fini première avec un temps de 2h31. Là, ça aurait été un record pour ce marathon-là. Donc, c'était pas subtil. Elle a dû répondre à plusieurs questions de journalistes. Paraîtrait-il qu'elle était un peu incohérente dans ses menteries. Alors, elle a été démasquée. Mais ce qui est le fun dans cette histoire-là, c'est que la femme qui a terminé deuxième, là, elle savait qu'elle était meneuse. Aucune coureuse ne l'avait dépassée tout le long de la course. Donc, elle comprenait pas pourquoi c'est pas elle qui avait franchi le fil la première à la fin. Et cette femme-là, c'est une Québécoise. C'est Jacqueline Garreau. On connaît son nom, elle a souvent raconté son histoire et le marathon de Boston l'a finalement déclarée gagnante dans une cérémonie qu'ils ont organisée juste pour elle une semaine après l'événement. Et elle et Rosie Ruiz se sont déjà recroisées hein, dans un autre événement par la suite et Jacqueline Garreau, elle l'a confrontée et Rosie Ruiz, elle a toujours refusé d'admettre qu'elle avait pas gagné la course.
Aïe.
Donc, une belle mythomane, elle aussi. Et ça, hein, ça se pourrait plus aujourd'hui d'ailleurs parce que maintenant on porte des dossards, il y a des puces GPS, oui, alors ça. Les coureurs sont suivis, ça pourrait plus arriver.
Parlons de Camilla.
Camilla, là, c'est le fun parce qu'elle joue encore en ce moment. C'est une joueuse de tennis italienne de 29 ans. Elle est présentement dans le circuit de la WTA. C'est une bonne joueuse. Elle a déjà été 26e. En ce moment, elle est 75e. Et elle, son problème, c'est qu'elle emprunte de l'argent pour financer ses tournois, mais elle rembourse jamais ses créanciers. Et son père est entraîneur de tennis. Elle a commencé à jouer quand elle avait 5 ans. Elle a gravi les échelons. Puis son père a toujours rêvé d'en faire une joueuse professionnelle et qu'elle fasse beaucoup d'argent. C'est lui qui l'a dit, puis il l'a répété en entrevue, OK? Mmh. En 2010, elle a quitté l'Italie pour s'installer aux États-Unis, mais les académies de tennis étaient très chères, donc elle a rencontré un couple du Connecticut qui a accepté de financer ses tournois en échange d'un pourcentage de ses futurs gains. L'année qui suit, elle a gagné plein de tournois, mais elle a jamais donné un sou à ces gens-là. En 2011, elle a intégré le tableau final de Wimbledon. Il y a un ami de la famille qui a payé le billet d'avion. Elle a touché 18 000 $ au tournoi. Elle l'a pas remboursé. Mais... En 2012, il y a des gens, un directeur d'un tournoi en Alabama qui a convaincu des investisseurs de miser sur elle. Ils ont mis 27 000 là-dedans. Elle a fait les huitièmes de finale de Wimbledon cette année-là. Elle a empoché 115 000. Elle les a pas remboursés.
Oh.
Et là, c'est toutes des petites histoires comme ça, puis c'est pas des gros montants, là, entre guillemets. Tu sais, c'est
mais
des
non, mais c'est le principe, c'est le principe.
C'est le principe, mais là, ça commence à se cumuler. Et elle, ça fait plus de 2 millions de gains tennis depuis le début de sa carrière qu'elle touche. Elle est capable de rembourser tout ce monde-là. Là, il y a un journaliste de Sports Illustrated qui l'a confronté, qui lui a dit là, il paraît que ça. Puis elle a juste répondu, elle a été très évasive et elle a dit, j'ai pas envie de parler de ça, moi je me concentre sur le tennis. Mais là, tu vois, ça commence à sortir, alors sa réputation commence à être écorchée. Mmh. À suivre.
Et puis, on aurait parlé
Alidia, c'est un Sénégalais qui a joué dans des petites divisions en France. À un moment donné, il est allé, c'est un joueur de soccer, là, il est allé tenter pour le tout en Angleterre, puis il s'est mis à contacter les entraîneurs des clubs de Premier League en se faisant passer pour George's Way, qui est un joueur libérien connu, puis il disait « Hey, moi j'ai un cousin très technique, très rapide, qui pourrait jouer en Premier League. » Les clubs l'ont pas vraiment mordu à l'hameçon, sauf un. Alors il s'est ramassé à Southampton, et dans les entraînements, ses coéquipiers ont vite vu qu'il y avait un décalage, là, mais ils se sont dit « On va lui laisser le bénéfice du doute, on l'a pas vu jouer en situation de match. » Et finalement, le 23 novembre 96, il y a un joueur qui s'est blessé, alors l'entraîneur l'a embarqué dans le match contre Leeds United. Alidia était pourrie, c'était un désastre, mais il a quand même joué 53 minutes avant d'être remplacé. Son contrat a été résilié 2 semaines plus tard, mais on parle d'un gars qui jouait pas au soccer, qui a joué dans la Premier League de par ses mensonges. C'est quand même extraordinaire.
C'est pas pire du tout. Evelyne Audet, merci.
Hey, merci, Bernard.
Je te souhaite un très bel été, OK?
Toi aussi.
Salut, on se reparle. C'est le temps de vous remercier. D'abord, je vais remercier mon équipe, Maryse Duchesneau, Larry Dufresne, Alexandra Pouliot, avec qui je prépare cette émission. Merci à vous trois. Je vous souhaite un très bel été à vous trois. Je vous aime énormément. Je vous laisse au bon soin de Jean-Luc Mongrain, que je salue et qui va prendre le relais donc de cette émission jusqu'à mon retour le 16 août. Alors, je vous souhaite un très bel été. Je vous souhaite une belle fête nationale. On se souhaite une Coupe Stanley. Merci à Julie-Christine Gagnon et Pierre Martineau, les patrons, pour leur confiance, bien appréciée. Prenez soin de vous sur la route. On fête pas trop fort, mais on a le droit de fêter. On l'a mérité, sans se lâcher trop lousse, parce que la maudite bébite est encore là. Alors, je vous aime, je vous embrasse. On se reparle le 16 août. Salut tout le monde. Ciao!